20h, 21h, France Info, les informés, Augustin Arrivé.
Bonsoir à tous. Un accord imminent pour solder enfin le Brexit. Voilà ce qu'on nous promet, peut-être pour cette nuit, au moins pour demain, pile pour glisser sous le sapin. Ça fera une belle jambe aux chauffeurs routiers bloqués dans leur habitacle. Il faut se faire tester pour rentrer en France. Test PCR pour tout un chacun. Test rapide pour les transporteurs. Et pendant ce temps, pas question en France de reconfiner. Le gouvernement renvoie la question au mois de janvier aux grandes dames de nombreux élus qui donnent de la voix. Nous allons en parler dans ce nouveau numéro des Informés où il sera également question, entre autres, de la fin de mandat de Donald Trump qui visiblement n'a pas prévu de trêve pour les fêtes. Président américain offensif à un mois de quitter la Maison Blanche. À mes côtés pour commenter tout ça, François Reinhardt, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et écrivain chroniqueur à l'Obs, également en studio pour le journal Ouest France, Stéphane Vernet, bonsoir.
Bonsoir.
Michel Taube, merci à vous aussi d'être avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Du site d'information Opinion Internationale et à distance, j'espère que vous m'entendez, Antoine Boulet, bonsoir.
Très clair.
Président et fondateur de l'Institut Bien Commun, cabinet de conseil en relations institutionnelles et information économique. Nous pouvons donc commencer. Le trafic a pu reprendre la nuit dernière dans le tunnel sous la Manche, mais à tout petit pas, piano piano, les files de camions sont démesurées. Il faut fournir des tests négatifs. C'est l'armée britannique qui les propose aux conducteurs. Et nous nous retrouvons avec des situations comme celle d'Anthony Quenel, transporteur routier bloqué à Cambridge et joint par France Bleu Normandie aujourd'hui.
Pour vous dire que de toute façon, simplement Noël, à mon avis, ce sera dans les camions. Bah, la situation est quand même inadmissible, hein. On a quand même des collègues qui sont 2-3 jours là, sans manger, sans toilette, sans rien, bloqués sur l'autoroute. Concrètement, je pense que je ne suis pas sorti d'ici vers 3-4 jours.
Donc pas Noël dans le camion, comment vous le prenez ?
Très mal.
Ce transporteur routier que l'on peut comprendre, Anthony Quenel, qui espérait sans doute un autre réveillon. Jean Castex a entrouvert hier soir la porte aux Britanniques et aux Français qui étaient sur place. Il y a des enjeux économiques, Antoine Boulet, mais bon, ça reste minimal cette ouverture.
Oui, il est certain que la situation est très problématique, mais comme dans d'autres sujets qu'on verra peut-être ce soir, le Covid joue un rôle de révélateur. C'est-à-dire que cette décision du peuple britannique du Brexit, qui d'ailleurs n'est plus aujourd'hui majoritaire dans le pays, mais en même temps le référendum fait foi, est évidemment une absurdité. Simplement, cette absurdité est démultipliée par le Covid. Et donc, on aboutit à cette très grande souffrance de à la fois de familles, de travailleurs, en l'occurrence les camionneurs, mais pas uniquement. La ville de Calais, on a vu des images de camions bloqués sur un ancien aéroport. C'est le chaos. Ça révèle ce à quoi aboutit finalement la démagogie. C'est l'intérêt de personne.
Alors, absurdité, ça reste quand même un point de vue. Boris Johnson, lui, il ne dirait pas ça. D'ailleurs, il continue d'avoir une parole assez ferme et à rester droit dans ses bottes, à dire on n'acceptera pas n'importe quel accord. Bon, là, il semble qu'un accord se profile. François Reinhardt, vous aussi, vous diriez que ça révèle une absurdité de la proposition de Boris Johnson.
Je scindrais les problèmes, hein, parce que le Brexit, c'est une chose. Je pense, comme notre précédent interlocuteur, que j'étais contre le Brexit, je pense que c'est une idiotie, mais là, on est dans autre chose. On est dans l'histoire de la mutation du virus.
Donc la crise sanitaire face à l'économie, voilà. Qu'est-ce qu'on fait
Donc si cette chose-là, si cette même mutation du virus avait lieu en Espagne, il y aurait des camions qui seraient bloqués dans les Pyrénées, alors que l'Espagne n'a aucune envie de quitter l'Europe et la France non plus. Donc là, c'est le Brexit, c'est autre chose. Là, il ne faut pas l'instrumentaliser dans un sens ni dans l'autre, hein, parce que Johnson, il l'avait instrumentalisé il y a 2 semaines quand ils ont commencé à vacciner, en disant on a commencé à vacciner, c'est formidable parce qu'on est, on a le Brexit.
Oui, non, parce qu'ils en avantage,
bon, jusqu'au 31 décembre. Donc c'était une autre instrumentation qui est fausse. Mais en tout cas, voilà, non, il faut juste garder en tête ce truc que ce virus est une saloperie dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est épouvantable. Et quand on croit, là, la séquence est extraordinaire. L'Angleterre commence à vacciner. On se dit, ça y est, on souffle, c'est bon, dans 3 mois, c'est fini. Et bing, voilà, ben non, une nouvelle souche. Alors il semblerait que les vaccins soient quand même efficaces contre cette nouvelle souche, heureusement. Mais on est uniquement dans la question sanitaire, là, à mon avis.
Enfin, les commentaires, notamment de la presse britannique et beaucoup d'observateurs, c'est que quand même Boris Johnson a cédé à la panique. C'est-à-dire qu'effectivement, face à cette mutation du virus, les décisions qui ont été prises sont quand même absolument radicales et ont plongé l'Angleterre et surtout le sud-est de l'Angleterre dans un blocage.
En même temps, on lui reprochait l'inverse en printemps.
Exactement, mais c'est toute la difficulté de la gouvernance de cette crise, effectivement, cette saloperie que personne n'arrive à maîtriser, dont tout le monde a peur, à commencer nos gouvernants. Ils en ont peur. Et les décisions que prennent un Boris Johnson relèvent de cela. Et puis en même temps, les Anglais sont les plus rapides d'Europe à se faire vacciner. Là, ils en sont déjà à des dizaines de milliers de vaccinés, alors qu'en France, on n'a pas commencé encore la vaccination. Donc, il y a sans arrêt des paradoxes. Et en France, on va en parler, ils sont tout aussi nombreux. Mais c'est vrai que quand même, il n'y a pas de lien avec le Brexit, sauf sur une chose. C'est que les liens, quand même, ont commencé à se distendre entre l'Angleterre, la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Et que ça commence à tanguer quand même, notamment dans le flux des populations qui traversent la Manche et qui vont de l'Angleterre au continent. Et je pense quand même que là, les Anglais sont en train de se rendre compte de plus en plus qu'ils sont en train de redevenir une île, et que ça va, et qu'ils vont le payer très très cher. Et il y a un climat actuellement à Douvres et dans la région, pas lié qu'à la crise du Covid, mais aussi lié Douvres et la région qui ont voté pour le Brexit, alors qu'ils étaient peut-être les derniers avec Londres qui y avaient intérêt. Mais là, ils sont en train de mesurer la distance qui est en train de se créer et qui est malheureusement définitive entre l'Angleterre et l'Union européenne.
Stéphane Vernet, on commente les décisions de Boris Johnson. Moi, je voulais plutôt vous faire réagir sur les décisions du gouvernement français qui, contrairement à d'autres pays européens ou ailleurs qui bloquent totalement les arrivées à la frontière, voilà, la France a dit bon, on rouvre quand même, il va y avoir des passages. Bon, c'est un petit peu lent parce qu'il y a les tests à faire, mais voilà, c'est pas la même position.
C'est sous condition. C'est à condition de passer un test, d'avoir un test valable de 48 heures, je crois, c'est ça, ou de tous les
tests PCR pour tout un chacun, et les professionnels, les transporteurs, eux, c'est un test rapide qui est fait par les Britanniques.
Ouais, il y a quand même volonté de filtre. Après, si vous voulez, le problème de cette maladie, c'est que depuis le début, on est face à l'inconnu. On est tous face à l'inconnu. On parlait des réactions de Boris Johnson. Je vous rappelle que chaque pays a fait des choix qui lui étaient propres, que les siens n'étaient pas forcément les bons au départ non plus. La politique dite de stratégie d'immunité collective, les Anglais, ils l'ont payé cash. Hein. C'est un des pays qui a le plus grand nombre de morts.
C'était la première stratégie, à savoir on se contamine tous jusqu'à ce qu'il y ait tellement de monde contaminé que ce ne soit plus un problème.
Donc ça n'a pas marché, ils ont fait machine arrière. Ils le payent, l'addition est sévère. Mais en réalité, face à cette maladie et face aux inconnus, aux incertitudes qui sont liées à cette maladie et qui continuent, la preuve, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a des décisions à prendre et après, ben, ma foi, il faut s'adapter en fonction de ce qui vient et ce qui est en train de se passer. Et aussi, c'est ce à quoi on est aussi en train d'assister avec ce filtrage et ce blocage des frontières.
Et on va continuer à parler de ça et de cette difficulté à choisir une politique sanitaire bien définie. Ce sera après le Fil Info, puisqu'il est déjà 20h11. On retrouve Cyril Ardot.
Le tireur de Saint-Just dans le Puy-de-Dôme qui a tué 3 gendarmes la nuit dernière était survivaliste, il était persuadé de la fin du monde. C'est ce qu'a dévoilé ce soir le procureur de la République de Clermont-Ferrand lors d'une conférence de presse. Le corps de l'assaillant a été retrouvé ce matin dans sa voiture. On a toutes les raisons de penser qu'il s'est suicidé, dit ce soir le parquet qui parle d'une scène de guerre. Des avions de chasse français ont survolé aujourd'hui la Centrafrique afin de marquer la condamnation des tentatives de déstabilisation dans le pays. Décision prise par Emmanuel Macron en accord avec le président centrafricain et l'ONU. Dans cet état, des groupes armés occupent les 2/3 du territoire et menacent la tenue des élections présidentielles ce dimanche. Près de 15 000 contaminations Covid-19 ces dernières 24 heures, chiffre en forte hausse par rapport à la veille, c'est 3 000 de plus. En revanche, le nombre de décès est en baisse, 276 morts dans les hôpitaux entre hier et aujourd'hui. Le football avec la 17e journée de Ligue 1, 10 affiches à suivre ce soir. Rennes mène 1-0 sur Metz, Reims mène Bordeaux 2-0. 2-1 pour Nice sur Lorient et puis à suivre notamment dès 21h, Lyon-Nantes et Paris Saint-Germain-Strasbourg.
France Info. 20h, 21h, les informés, Augustin Arrivé.
Ce matin sur France Info, Valérie Rabault, députée socialiste du Tarn-et-Garonne, disait que d'après elle, il faudrait interdire les déplacements d'une région à une autre pour éviter la propagation du virus. Avant-hier, quand on posait la question à la députée Les Républicains du Doubs, Annie Genevard, si ce serait une bonne chose de fermer la frontière avec la Suisse, elle répondait « mais surtout pas, la Suisse c'est le premier employeur du département ». Antoine Boulet, chacun a son avis dans cette épidémie et c'est difficile de contenter tout le monde visiblement.
Écoutez, au risque de vous surprendre, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que là aussi, pour le coup, le Covid révèle que les territoires sont et vivent des réalités différentes. On ne peut pas décider de Paris comment chacun va faire cuire son œuf au plat, organiser ses déplacements. Donc il faut une cohérence, il faut un cadre général, et ça, le gouvernement le donne. Et moi, il me semble que dans la gestion notamment de ce deuxième confinement, ce cadre général, cette exigence de prudence, elle est parfaitement comprise par tous, mais qu'en revanche, il faille des adaptations en fonction des situations personnelles ou pourquoi pas régionales ou départementales, je pense que les gens peuvent aussi le comprendre.
Donc, quitte à ce, ce que soit pris depuis Paris, finalement.
Non, oui, c'est pris depuis Paris, mais finalement qu'une députée du Sud-Ouest et une députée du Nord-Est aient des avis différents, ça ne me semble pas totalement étonnant dans un pays qui compte 365 au moins sortes de fromage. Voilà, donc c'est pris depuis Paris, mais on sent bien que même dans la manière, plus que ça même, dans la manière dont les forces de l'ordre, les préfectures et autres services centraux et déconcentrés appliquent ces mesures, ils le font avec une sorte de magnanimité, d'adaptabilité, et qui me semble extrêmement profitable et qui donne des résultats in fine sanitaires qui sont, je dirais, convenables.
Non, mais on voit bien que quelqu'un qui vit dans le Doubs, il a plus intérêt à ce que la frontière avec la Suisse soit ouverte parce qu'il y a beaucoup de transfrontaliers. C'est peut-être un problème qui se trouve moins dans le Tarn-et-Garonne. Il y a des impératifs économiques, François Reinhardt, qui forcément jouent dans les prises de position, en tout cas.
Alors, c'est bien évident que moi, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans les prises de position qu'un député défendre sa circonscription, c'est tout à fait normal. Que le président du syndicat des théâtres défende les théâtres, c'est tout à fait normal. Moi, ce qui me heurte l'oreille de plus en plus, c'est les hommes politiques qui essaient de prétendre à une stature nationale en donnant des idées à tout le monde. Alors pour moi, la caricature absolue, je suis désolé de le dire, c'est Dupont-Aignan qui, la semaine dernière, il s'est encore surpassé en venant à France Inter raconter une série de contre-vérités les unes après les autres, en donnant des leçons à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que lui, s'il gouvernait la France, on aurait échappé au virus, on serait les champions, etc. Alors, et on apprenait le même jour que dans son propre parti, il y avait la moitié des cadres qui s'en allaient parce qu'il n'était pas capable de tenir son parti. Donc ça me paraît beaucoup plus exaspérant, si vous voulez. Mais que effectivement, les députés défendent les intérêts de leur territoire, c'est normal. Mais c'est normal aussi que le gouvernement dise l'intérêt général. C'est son boulot dans une démocratie. Hein.
Mais là, aujourd'hui, on a des prises de décision qui sont communes à tout le territoire métropolitain, alors qu'en septembre, octobre, on avait d'abord donné des territoires sous couvre-feu qui étaient bien spécifiques.
Et je vous rappelle que c'était très critiqué aussi. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, hein, il y a une femme de la frontière.
Oui, mais alors pourquoi avoir changé de stratégie ?
Il s'appelle le meunier, son fils est l'âne, et ça veut dire que voilà.
Antoine, vous vouliez intervenir ?
Oui, ce qui est très frappant sur ces couvre-feux différenciés, c'est que dans certaines agglomérations ou métropoles où le couvre-feu n'était pas encore déclenché, on a vu au niveau épidémiologique que l'épidémie a moins progressé, comme si avec les couvre-feux déclarés dans des villes, d'autres villes, eh bien les populations avaient anticipé vers plus de prudence avant même d'être touché par le couvre-feu. Ce que je veux dire par là, c'est que la parole centrale, elle joue le rôle d'un signal. Quand je dis centrale, je veux dire au niveau de Paris, effectivement, de l'administration centrale, du gouvernement. Elle joue le rôle d'un signal qui est très utile, de guide pour l'action. Et il est normal qu'elle soit générale, comme le disait François Hennet. Ensuite, au niveau local, il y a une adaptation qui est dans la pratique. Et notre pays n'est pas du tout habitué à ça. Et c'est très intéressant. Mais en réalité, situation géographique, chaque sociabilité, l'organisation du territoire, plus ou moins urbain, plus ou moins rural, doit s'organiser en fonction. Même le couvre-feu après 20 heures en zone rurale sur les routes, on peut penser qu'il n'est pas forcément particulièrement indispensable parce que dans sa voiture, on contamine personne. Alors qu'inversement, quand on voit à Paris des terrasses qui sont censées faire du take-away, mais qui en fait sont des sortes de lieux de station des passants et des riverains qui partagent des bières en étant collés les uns aux autres, ben c'est pas forcément idéal, même s'il est 18h. Et c'est cette réalité-là qu'il faut adapter. C'est un challenge pour un État très centralisé,
Michel
très
bureaucratique de la France. Deux choses. Quand Jean Castex est arrivé à Matignon, il a dit que le couple préfet-maire serait absolument central dans la politique du gouvernement. Et c'est vrai que pour le moment, à quelques rares exceptions, on reste quand même sur des décisions nationales et de nombreux maires se sont plaints de s'être vus, en fait, juste informés par les préfets des décisions qui avaient été prises à Paris. Et c'est vrai que les élus du nord-est de la France, qui quand même, il faut s'en souvenir, ont été traumatisés, les populations du nord-est ont été traumatisées par le premier confinement et par la première vague épidémique, avec des milliers de morts et des conditions absolument terribles que n'ont par exemple pas connues nos concitoyens du sud-ouest. Et donc, c'est vrai qu'on a malheureusement pas tirer les leçons de la première période en donnant au territoire plus de capacité de décision dans les mesures de confinement, de protection des populations. Et la deuxième idée que je voudrais dire surtout, c'est qu'on a de plus en on a encore et toujours cette impression que la seule variable d'ajustement à la crise sanitaire, c'est le confinement, déconfinement, couvre-feu, mesures de fermeture administrative de tel ou tel établissement dans notre pays. Mais ça n'est pas la seule solution. Le gouvernement nous a tous piégés dans cette logique du confinement-déconfinement, alors qu'il y a d'autres voies qui peuvent être explorées, notamment la prévention sous toutes ses formes, avec la mobilisation des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, plus que les structures...
Qu'est-ce que vous voulez dire, la prévention? Parce que...
La prévention, c'est notamment, par exemple, de ne pas se contenter de dire « la vaccination ne sera pas obligatoire », mais d'appeler massivement la population à se vacciner, notamment tous les personnels soignants, notamment tous les corps en responsabilité. Quelqu'un qui reçoit un public, normalement, devrait se vacciner. Ça a été très peu dit. La seule chose qu'on a fait, c'est se protéger en disant on ne doit pas rendre obligatoire les vaccins. Ce que je veux dire, c'est que le confinement-déconfinement n'est pas la seule voie de solution pour sortir de cette crise. Et de laisser entendre que la prévention, c'est cela, je pense que c'est une erreur stratégique qui est commise par le gouvernement depuis maintenant deux
ça
s'additionne, et dans laquelle on est tombé.
Ça s'additionne, ça s'annule pas, c'est différent.
Et par ailleurs, c'est à peu près ce qui est fait par tout le monde.
Alors c'est fait, je vais vous dire. La différence entre la France et par exemple l'Allemagne, c'est que les fermetures administratives et le confinement général, c'est l'arme ultime qui a été utilisée, c'est-à-dire très très récemment. Alors qu'en France, ça fait des semaines et des mois que certains établissements sont complètement fermés et que l'on a pris des décisions de confinement beaucoup plus tôt. Mais les conséquences sanitaires, même pas économiques, je dis bien sanitaires, avec les troubles psychologiques, les drames sociaux que cela a entraîné, ne sont même pas mesurés et ne sont probablement pas calculables. Donc je pense effectivement qu'en France, on a fait du confinement des confinements la mesure principale de gestion de la crise, alors que dans d'autres pays, elle n'est utilisée encore une fois qu'en dernier recours.
Alors un secteur économique qui souffre beaucoup de ces mesures sanitaires et de ce coronavirus, c'est le monde de la culture. On va en parler après le fil info, puisqu'il est 20h20, on retrouve Cyril.
Dans le Tarn, des recherches toute la journée pour essayer de retrouver Delphine Jubilard. Cette infirmière de 33 ans a disparu il y a une semaine à Cagnac-les-Mines. Une enquête contre X a été ouverte aujourd'hui par le parquet de Toulouse pour enlèvement et séquestration. Une scène de guerre cette nuit dans le Puy-de-Dôme. Ce sont les mots du procureur de la République de Clermont-Ferrand en conférence de presse tout à l'heure. Trois gendarmes sont morts lors de cette intervention pour des violences conjugales. La piste du suicide de l'assaillant est désormais privilégiée par le parquet. Son corps a été découvert ce matin dans sa voiture. Plusieurs dizaines de personnes vaccinées contre le Covid-19 dès dimanche en France. Les premières injections du vaccin Pfizer seront faites dans plusieurs hôpitaux, dont un situé en Seine-Saint-Denis. Les EHPAD ont reçu hier un guide d'organisation de la vaccination pour répondre aux questions des résidents et de leurs familles. En Grande-Bretagne, le ministre de la Santé annonce qu'un nouveau variant du coronavirus a été identifié. Il a été détecté chez deux personnes qui rentraient d'Afrique du Sud. Selon les autorités anglaises, ce variant est encore plus contagieux que le précédent qui avait été découvert au Royaume-Uni. Un nouvel entraîneur pour le FC Nantes. Bientôt, un accord verbal a été conclu avec Raymond Domenech, mais rien n'est encore signé. Le coach qui n'a pas dirigé d'équipe depuis le fiasco de la Coupe du Monde, c'était en 2010.
France Info. 20h, 21h, les informés. Augustin arrivé.
En matière de « et en même temps », nous atteignons là des sommets. Le Conseil d'État a été saisi pour examiner la possible réouverture des cinémas et théâtres au nom des libertés fondamentales. Décision rendue cet après-midi. C'est non, le virus circule trop. Et en même temps, quand ça se calmera un peu, le Conseil d'État estime qu'on ne pourra pas maintenir ces établissements fermés au seul motif du risque de contamination. Écoutez la réaction de Nicolas Dubourg. Il préside le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles.
Ce que dit le Conseil d'État, c'est exactement, finalement, les arguments que nous avons fait valoir auprès du gouvernement. Nous sommes plus qu'un secteur économique, nous sommes un secteur dans lequel s'exercent des libertés fondamentales. Des libertés, bien sûr, d'expression, la liberté de création des artistes. Et puis, on le voit dans la situation dans laquelle on vit actuellement, que l'univers culturel dans lequel on baigne est en train de s'appauvrir considérablement. Et finalement, ce que dit le Conseil d'État à travers le rappel de ses libertés, c'est que la République française doit aussi mettre en œuvre des politiques qui garantissent un élargissement de l'horizon de tous.
Voilà, cette fermeture serait effectivement attentatoire aux libertés, mais en même temps, quand même, pas suffisamment pour rouvrir dès maintenant. Stéphane Vernet, chacun peut interpréter les choses à sa manière, on a l'impression.
Non, alors, le Conseil d'État a été saisi en référé, et ce que dit le juge, c'est qu'il dit effectivement, ces mesures sont attentatoires aux libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté de création. Ça pose un problème, mais compte tenu du fait qu'il y a un certain nombre d'incertitudes, encore une fois, des inconnus autour de la maladie, une nouvelle souche qui circule, et une réelle menace de propagation et de développement exponentiel de l'épidémie, y compris en France, il ne donne pas un avis favorable à la réouverture des établissements. Et on peut le comprendre. Ce qui est compliqué dans cette histoire...
Alors dans ce cas, il aurait peut-être fallu fixer un seuil, par exemple, de contamination minimale pour fermer ou rouvrir les établissements. Je dis ça comme ça, Stéphane Vernet, je vous ai coupé. Mais
en fait, non. C'est-à-dire que le juge tient compte du fait que la plupart des établissements ont mis en place des protocoles sanitaires très stricts. Il constate qu'effectivement, il n'y a pas forcément plus de risque de se contaminer en allant au cinéma ou au théâtre que dans d'autres activités. Mais encore une fois, la décision qui est rendue par le juge tient compte du fait de la situation sanitaire et de son évolution. Je redis ce que je disais au début. On est face à une inconnue sur toutes sortes de plans. On ne sait pas comment cette maladie peut évoluer. Et donc, il y a un moment, il y a aussi un principe de précaution qui s'applique. Ce qui est très troublant, ce qui est perturbant, et je reviens à ce qui vient de se dire précédemment, c'est qu'on est face à des décisions qui paraissent contradictoires. C'est gênant. C'est dérangeant pour nous tous, parce qu'on aimerait avoir des pouvoirs publics, des dirigeants, qui donnent le sentiment qu'ils savent exactement où ils en sont, exactement où on va, et ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait aucun problème et que tout soit sous contrôle. Sauf que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est quelque chose qui est facteur d'angoisse, mais en réalité, ils progressent et ils avancent en fonction de ce qui se passe, et ils font les choses comme ils le peuvent. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit
nécessité économique.
Par rapport aux nécessités économiques et puis par rapport à l'agilité des régions. Ce que disait Antoine Boulet en début d'émission est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a un rôle de révélateur dans le Covid. Et c'est vrai que les régions et les communes se sont montrées très agiles, plus que l'État central, dans la gestion d'un certain nombre de points pratiques au niveau des territoires. Sauf que le couple préfet-maire qui a été mis en place et mis en avant par le Premier ministre, c'était au moment du déconfinement. C'était, on s'appuie sur une relation entre les préfets et les maires qui a fonctionné au moment du déconfinement. Là, au moment du reconfinement, parce qu'il y avait un retour de la maladie, l'État a repris les manettes en disant « on va plus s'appuyer sur des décisions locales, il faut un cadre national ». Et ça, excusez-moi, mais je pense que c'est aussi du bon sens et qu'il fallait le faire à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas qu'au moment du premier confinement, il y avait deux régions qui étaient très touchées, qui étaient le Grand Est et l'Île-de-France, et la région parisienne. Au moment du reconfinement, c'est-à-dire à l'automne, il n'y avait pas deux régions qui étaient très touchées, c'était l'ensemble du territoire dans lequel on voyait progresser de manière très spectaculaire la maladie, ce qui impliquait d'avoir une reprise en main nationale. Donc ça paraît contradictoire, mais en réalité, moi je pense que c'est très cohérent. Et pour terminer, ce que nous dit le déconfinement, il n'y a pas que le déconfinement. Le gouvernement a insisté énormément sur les gestes barrières. Toute la politique du tester, alerter, protéger, tracer, etc. Ils ont changé de terme 3-4 fois et compagnie. Mais il y a aussi un certain nombre d'outils qui sont déployés. Il n'y a pas que le confinement et le reconfinement. Le confinement, il n'est là que pour une seule chose. C'est qu'en réalité, et j'en reviens au propos d'Antoine Boulet tout à l'heure, le révélateur du Covid dans cette crise, c'est que ce n'est pas seulement une crise sanitaire. Ce n'est pas juste une crise sanitaire. C'est d'abord une crise du système de santé français. On confine pour empêcher les hôpitaux de craquer. Ils ont été au bord de la rupture au moment du premier confinement. Le confinement a permis de desserrer la pression sur les hôpitaux. Les soignants, ils sont éreintés, lessivés, épuisés. Repartir dans une spirale qui serait la même qu'au printemps, à un moment, l'hôpital va juste craquer. Et donc le confinement, oui, c'est un côté moyenâgeux. On se dit, il faudrait faire autre chose, etc. Mais en réalité, pour préserver notre système de santé, avant de le transformer, de l'adapter, de le faire évoluer, il n'y a que ça.
Il y a effectivement la crise de l'hôpital, mais il y a aussi la crise de la culture. Je voulais vous faire réagir là-dessus. François Reynard.
Justement, j'entends bien ce que dit Stéphane, qui est un homme de bon sens. Mais il faut entendre aussi que du côté de la culture, moi je connais beaucoup de jeunes acteurs, etc., qui disent, mais qui disent, il y en a encore un qui me disait ça tout à l'heure, pourquoi est-ce que dans les grands magasins il y a un monde dingue et qu'ils ont pas le droit de venir au théâtre? C'est une question, il y a une question. Ou bien il y a la comparaison avec la liberté de culte.
Alors comment vous interprétez la décision du Conseil d'État?
Alors, en tout cas, si je me souviens bien, quand il y a eu la question avec les catholiques, le Conseil d'État n'a pas été saisi, je ne crois pas. Hein. Quand il y avait la question de la jauge des églises.
Il a été saisi sur la... Excusez-moi, vous interrompre, mais il a été saisi sur l'argument, enfin, qui était quand même absurde, c'est que ce soit la cathédrale de Reims ou de Strasbourg, ou une petite église au coin de la rue, fermeture des lieux de culte sans tenir compte par des jauges variables en fonction de la taille des lieux, mais ça c'est pareil. C'est pareil pour les restaurants qui sont fermés depuis des semaines.
Juste pour terminer, donc
les restaurants,
d'accord, ça me paraît un problème à part dans la mesure où on sait qu'on contamine beaucoup au restaurant puisqu'on parle et qu'on n'a pas de masque. Mais effectivement, au théâtre. Là, je vois pas la différence entre le théâtre et la messe. Enfin, je dis pas ça sans aucune volonté de choquer les catholiques, pas du tout. Je veux dire, le droit des chrétiens, des croyants, pardon, à assister au culte est un droit fondamental et nécessaire et qui doit être protégé. Le droit des gens qui aiment la culture à aller au théâtre et à aller rêver au cinéma, il doit être protégé aussi. Donc, il y a un côté. Ou bien il faut fermer les grands magasins aussi, les hypermarchés aussi. C'est ça qui est pas. Il y a un signe qui est injuste.
Juste après la pause, je donnerai la parole à Antoine Boulet, puisque vous avez un pied aussi dans la culture. Vous avez fondé un festival de musique. Vous avez sans doute votre mot à dire. Mais on va faire d'abord un point sur la météo.
France Info Météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Élodie Calac et Météo France.
Attention au vent fort ce soir et cette nuit sur le nord-ouest et le nord, jusqu'à 80 à 90 km à l'heure des Pays de la Loire à la région parisienne. Demain encore des rafales à 70 km à l'heure sur la moitié nord. Le vent s'orientera au nord, près de la Manche, apportant de l'air plus frais. Il fera souvent 4 à 10 degrés le matin, l'après-midi 6 à 12 degrés, jusqu'à 18 toujours pour la Corse. On retrouvera nos pluies au nord et sur les Alpes le matin. L'après-midi, elles glisseront vers l'Aquitaine, le massif central, jusqu'aux régions de l'Est. Il neigera autour de 1000 mètres, 400 mètres la nuit suivante. Entre le nord-ouest et le nord de la Seine, ça s'éclaircira au fil des heures. Encore quelques averses près des côtes, quelques flocons sur le Nord-Pas-de-Calais en fin de journée. On trouvera des éclaircies sur le Languedoc-Roussillon le matin et jusqu'à la Côte d'Azur l'après-midi.
Élodie Calac pour ses prévisions Météo France. Il est 20h30. Trouvons Thomas Benesch.
Après la disparition de Delphine Jubilar, mère de famille de 33 ans la semaine dernière dans le Tarn, la justice toulousaine ouvre une information judiciaire contre X, entre autres pour enlèvement, détention ou séquestration arbitraire. Ce mercredi, deux battues citoyennes avaient lieu depuis Cagnac-les-Mines, lieu de la disparition de Delphine Jubilar. Et dès ce matin, elles ont mobilisé de nombreux habitants, Margot Steve.
Les gendarmes ne s'attendaient pas à une telle mobilisation. Près d'un millier de personnes, des habitants, des voisins, des proches de Delphine Jubilar qui sont arrivés par centaines au petit matin sur le terrain de rugby de la commune. Répartis en groupes de 15 personnes, les volontaires sont partis aux alentours sur un terrain très accidenté, des trous, des ronces, des herbes hautes où il faut inspecter chaque recoin. Ce matin, les volontaires ont retrouvé un couteau caché dans un fourré, plusieurs chaussettes aussi, mais rien ne permet de dire si ces objets ont un rapport ou pas avec la disparition de la jeune femme. Les gendarmes doivent maintenant les analyser pour tenter de retrouver par exemple des traces ADN. En tout cas, parmi les amis de Delphine Jubilar que j'ai pu rencontrer ce matin, aucun ne croit à une disparition volontaire. Elle avait peur du noir, nous raconte le mari d'une de ses collègues. Elle n'aurait de toute façon jamais abandonné ses enfants, affirme aussi l'une de ses amies d'enfance.
Margot Steve, service police-justice, envoyé spécial de France Info dans le Tarn. Il s'appelait Cyril Morel, Rémi Dupuis et Arnaud Mavel. Ces trois gendarmes sont morts en intervention près de Saint-Just dans le Puy-de-Dôme. Ils étaient venus sauver la nuit dernière une femme menacée par son ancien conjoint. Ce dernier a tiré sur les forces de l'ordre puis s'est échappé avant d'être retrouvé mort ce matin. Le procureur de Clermont-Ferrand parle ce soir d'une scène de guerre et qualifie le profil du tueur de très inquiétant. L'IGPN, la police des polices chargée d'enquêter après la mort lundi d'un militaire en provenance de Guyane. Il se suicide en prenant l'arme de service d'une policière après son interpellation, son placement en garde à vue à l'aéroport d'Orly. On a retrouvé dans ses bagages 4 kilos kilos de cocaïne. Près de 15 000, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus rapportées ce soir par les autorités sanitaires sur les dernières 24 heures dans notre pays. Par rapport à hier, léger recul des hospitalisations, baisse aussi des Français soignés en réanimation. Test négatif du Covid-19 pour le chef du gouvernement ainsi que pour le président de l'Assemblée. Ils sortent de l'isolement. Pour le président de la République, touché jeudi dernier par la maladie, il se peut que ce soit dès demain, si tout va bien. C'est ce qu'indique l'entourage d'Emmanuel Macron à France Info. À 4 jours des élections présidentielles et législatives en Centrafrique, Paris condamne les tentatives de déstabilisation du pays. Pour marquer cette prise de position, des avions de chasse français ont survolé aujourd'hui la Centrafrique. Opération menée en accord avec le président sortant du pays et la mission des Nations Unies engagée sur place. 17e journée de Ligue 1 de football. Ce soir, la dernière avant la trêve des confiseurs. 5 matchs disputés en ce moment. Rennes mène à Metz, j'y arrive, 1-0. À 21h, 5 autres rencontres, dont Montpellier opposé au leader Lille. Nantes se déplace sur la pelouse de Lyon. 20h33 sur France Info, l'heure de retrouver la suite de vos informés.
20h, 21h, France Info, les informés. Augustin arrivé.
Le Brexit. Et on continue d'évoquer cette décision du Conseil d'État au sujet de la culture. Décision un peu mi-figue, mi-raisin, puisqu'on nous dit à la fois que c'est trop tôt pour rouvrir les salles de cinéma et de théâtre, mais qu'en même temps, une fois que l'épidémie aura un peu ralenti, il ne sera plus possible de laisser fermer ces salles de cinéma, ces salles de théâtre. Autour de la table pour en parler dans ce numéro des Informés, nous sommes toujours avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Stéphane Vernet de Ouest France, François Reinhardt de l'Obs, journaliste écrivain, et Antoine Boulet, vous êtes président et fondateur de l'Institut Bien Commun, mais vous êtes aussi le fondateur du festival de musique Ouverture en Côte d'Or à Semur en Auxois. Alors vous avez forcément un avis sur ce qu'a dit le Conseil d'État. Pour vous, il s'attaque aux décisions du gouvernement ou au contraire, il tranche en faveur des artistes?
Je crois qu'il met d'abord le point, et merci pour la mention du festival. La différence, soit dit en passant, entre le théâtre et l'église, c'est que le théâtre, c'est payant et il faut une jauge. Je comprends ce que disait l'autre intervenant, mais François Reinhardt, il a tout à fait raison. Et en même temps, on ne peut pas jouer une pièce ou donner un concert devant 20 personnes. C'est le problème, c'est que malgré toutes les subventions publiques et les soutiens, le mécénat privé, il faut quand même une billetterie, et je parle d'expérience, pour que ça tienne. On a eu de la chance, nous, le festival s'est glissé entre les deux confinements et on a tenu notre édition réduite cette année. Mais au-delà de ça, ce que dit le sujet que soulève le Conseil d'État, c'est la question de l'urgence. Depuis 1800 jours, c'est-à-dire entre 2015 et aujourd'hui, entre le terrorisme et la situation sanitaire, nous avons vécu la moitié de cette période en situation d'urgence. Ça pose un problème pas uniquement à la culture, à l'église, à l'économie, au transport ou au restaurant, ça pose un problème à l'état de droit. Parce que un régime, une démocratie qui s'habitue à vivre de manière durable sur le mode de l'urgence, eh bien, c'est le fonctionnement de l'état de droit qui, au fur et à mesure, s'émousse. Et ça, je vous renvoie par exemple aux travaux de Stéphanie Hennette-Vaucher, qui est la plus grande, sans doute, théoricienne de l'état de droit et des droits de l'homme en France aujourd'hui, qui sont très éclairants sur ce sujet. Pour ce qui est de la culture, il est vrai que 0,46% des cas de Covid uniquement ont été a priori contractés dans un environnement de salle de spectacle. D'autre part, on le sait, dans une salle de spectacle, on est masqué. On est dos à dos. Je parle du théâtre, je parle des concerts, sans doute de musique classique. Peut-être que dans les grandes arénas, il y a une cohue qui est plus difficile à contrôler. Mais là aussi, c'est la proportionnalité qui devrait s'imposer. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'impose pas? Parce que c'est le décideur public qui a peur de la judiciarisation. Il a peur effectivement qu'on vienne le chercher après en cas de contamination, en cas de cluster. Une note positive cependant, les aides. Moi, je l'ai vécu parce que je suis aussi le président d'un ensemble vocal professionnel. Et nous venons de recevoir une aide du ministère de la Culture. Roselyne Bachelot a quand même créé des aides adaptées. Il y avait pas mal de situations qui tombaient dans des trous. Vous êtes intermittent, mais vous n'avez pas fait assez de jours, ou alors vous êtes un opéra régional qui n'est pas national. Eh bien, au fur et à mesure, l'État colmate les trous et la culture est quand même très soutenue. Et ça, c'est quand même une belle nouvelle aussi pour notre pays.
Michel Taube, ça peut aussi ouvrir la voie à d'autres secteurs qui sont aussi concernés par des restrictions. Finalement, les boîtes de nuit, elles sont fermées depuis le mois de mars. Elles pourraient aussi saisir le Conseil d'État de la même manière à partir du moment où elles ont un protocole sanitaire bien mis en place.
Je pense vraiment que les pouvoirs publics ont manié, effectivement, sous prétexte de l'état d'urgence sanitaire, de façon beaucoup trop rapide, les mesures de fermeture administrative de beaucoup d'établissements, notamment liés de culture. Et puis, il y a eu des arguments qui ont été employés, qui se sont imposés dans le débat public, qui sont quand même, excusez-moi, détestables. Quelles activités sont essentielles, lesquelles ne le sont pas? Enfin, c'est quand même un concept qui a été absolument ravageur dans l'opinion publique. Ensuite, je le répète, la différenciation n'a pas été appliquée. Que ce soit la décentralisation de beaucoup de mesures, et pas uniquement pour le confinement, mais même pas uniquement pour le déconfinement, mais même dans le confinement, on aurait pu faire beaucoup plus dans la dentelle de territoire en territoire. Et ensuite, je le répète, un lieu de culte en fonction de sa taille, en fonction de nombreux paramètres, aurait pu peut-être ouvrir plus tôt que d'autres. Pareil pour les restaurants. Je suis désolé, qu'est-ce que c'est qu'un restaurant entre un établissement qui a beaucoup d'espace, où les devants sont ouvertes parce que les vitres peuvent s'ouvrir, et d'autres qui sont beaucoup plus confinés, beaucoup plus fermés. Je pense effectivement
qu'on a appliqué... C'est très compliqué de prendre des décisions au cas par cas, établissement par établissement.
Non, c'est pas compliqué, parce que dans un état beaucoup plus agile, beaucoup plus adapté, beaucoup plus proche des réalités de terrain, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, et c'est le cas, ça aurait pu et ça devrait aussi être le cas en France, on peut le faire. On a quand même un maillage territorial extraordinaire, avec des pouvoirs locaux qui auraient pu prendre leurs responsabilités, qui en étaient demandeurs. Et ça s'applique par exemple sur le dépistage, la concurrence qu'il y a eu entre les décisions d'État et certaines collectivités locales. Laurent Wauquiez, qui aujourd'hui s'enorgueillit d'avoir fait 600 000 tests en 15 jours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que par ailleurs, il y a l'État qui brandit 4 villes dans lesquelles il y a un dépistage massif qui est proposé à la population. Tout ça fait beaucoup de désordre, et je pense qu'il aurait mieux valu donner beaucoup plus de responsabilités aux pouvoirs locaux et aux citoyens pour se prendre en main, que d'avoir une approche très très jacobine comme ça l'a été jusqu'à présent.
Stéphane Vernet, c'était possible de faire du cas par cas, y compris d'ailleurs dans la culture?
Non, mais moi je suis d'accord avec Michel Taube, c'est très vrai ce que vous venez de dire, mais c'est très théorique. Le problème, c'est que ça marche à deux conditions, qui est confiance et responsabilité. Confiance de l'État par rapport à ses interlocuteurs en région et responsabilité de ces derniers. Et en fait, il y a un problème des deux côtés. Aujourd'hui, on voit aussi que dans ce qui est en train de nous arriver, vous avez aussi des postures qui sont des postures purement politiciennes. Vous venez d'évoquer Laurent Wauquiez qui met 19 millions pour faire 600 000 tests dans sa région. Il y a aussi la volonté de dire, regardez, moi je fais et je fais mieux que... À partir du moment où vous avez cette concurrence, cette compétition entre des gens qui ont à l'esprit des élections à venir, ça ne peut pas marcher. Et donc, je le regrette. Je regrette sincèrement. Mais malheureusement, ça ne peut pas marcher dans des conditions comme celle-ci. Et donc, à un moment, il faut qu'il y ait un juge de paix. Le juge de paix, en France, aujourd'hui, c'est le gouvernement, c'est l'État qui dit, voilà la procédure à suivre. Elle est incomplète, incohérente à certains points de vue, ou incompréhensible dans la manière dont elle est développée.
Voire désastreuse sur le plan économique, social, bah oui, et
mais bon, encore une fois, moi je reste persuadé que malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des décisions à mettre en œuvre.
Je pense qu'il y aura une bonne réponse bientôt, c'est les vaccins qui vont arriver, parce que c'est quand même la seule solution pour en sortir. Et je remarque là, pour rebondir sur ce que disait Stéphane sur l'irresponsabilité politicienne, qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui se positionnent aujourd'hui sur le thème « Ah, les vaccins, on ne sait pas, on doute, etc. » Et vous noterez que la plupart de ces hommes politiques-là sont... qui disent « Oui, mais on ne sait pas, c'est douteux, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces vaccins. » C'est les mêmes qui disaient en mars « Il faut prendre l'hydrochloroquine du professeur Raoult, dont on sait aujourd'hui qu'elle ne sert à rien. » Donc c'est quand même extraordinaire comme irresponsabilité. Donc en tout cas, que les citoyens soient vigilants et voient les hommes politiques qui ont responsabilité et voient ceux qui jouent leur carrière de manière démagogique.
On va s'intéresser à d'autres types de postures politiques, justement, juste après le Fil Info, 20h41, Cyril Ardoux.
On connaît à présent le profil du tireur qui a tué 3 gendarmes la nuit dernière dans le Puy de Dôme. C'est un chef d'entreprise persuadé de la fin du monde qui pratiquait le tir en compétition. Un profil inquiétant, a dit le procureur de la République de Clermont-Ferrand en conférence de presse. Ce midi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a rendu hommage à l'intervention courageuse et héroïque des militaires. La Fédération nationale des transports routiers demande sur France Info l'autorisation au gouvernement de rouler le jour de Noël et le week-end prochain. C'est normalement interdit, mais des milliers de camions sont toujours bloqués au Royaume-Uni. Après deux jours de fermeture, le port de Douvres a rouvert, mais le trafic se fait au compte-gouttes. Emmanuel Macron condamne les tentatives de déstabilisation en Centrafrique. En accord avec le président centrafricain, il a ordonné le survol du pays par des avions de chasse. Cet État est occupé en grande partie par des groupes armés qui menacent la tenue dimanche des élections présidentielles. L'accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se profile. Les négociations entrent dans la phase finale. Forts espoirs d'éviter le no deal à 8 jours de la date limite. Dernier point de désaccord, l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques. Le football avec la 17e journée de Ligue 1, 10 affiches à suivre ce soir. De partout, par exemple entre Nice et Lorient, 2-0 entre Lens et Brest, 2-1 pour Reims sur Bordeaux. Et puis à suivre ce soir, Lyon-Nantes, Montpellier-Lille et PSG Strasbourg.
France Info.
20h, 21h, les informés. Augustin Arrivé.
Il peut aussi y avoir des postures politiques même après les élections. Donald Trump est apparu la nuit dernière, comme souvent quand on ne l'attendait pas forcément. Il n'avait plus qu'à valider l'accord durement trouvé au Congrès américain entre les démocrates et les républicains. Il s'agissait de verser des aides aux Américains frappés par la crise sanitaire et voilà ce qu'il a dit.
Je demande au Congrès d'amender ce projet de loi et d'augmenter les ridiculement faibles 600$ à 2000$ ou 4000$ pour un couple. Je demande également au Congrès de se débarrasser des éléments inutiles et coûteux de cette loi et de m'envoyer un projet approprié, sinon ce sera la prochaine administration qui sera chargée de fournir le plan de relance Covid.
Un discours très commenté aujourd'hui. Au passage, il exprime clairement maintenant qu'il y aura une passation de pouvoir et ça... Ah,
déjà, moi, j'ai pas entendu François, ça. Hein. J'ai entendu la même...
Il y aura une nouvelle administration qui
dit,
fera ça.
Il dit, il y a une nouvelle administration qui fera ça and this administration will be me. Et cette administration, ce sera moi. Ah oui, j'ai entendu c'est dire
une,
ça.
Une c'est-à-dire que,
ou peut-être un autre, mais en tout cas, il continue à s'accrocher et à dire j'y resterai. Hein. Il a dit ça. This administration could be me. Ça veut dire, en plus, il se prend lui-même pour l'ensemble du gouvernement américain. Quoi.
Il continue de dénoncer des fraudes, ouais. En tout cas. Et pendant ce temps, on parle moins des grâces présidentielles qu'il vient d'accorder. Ça va profiter notamment à deux personnes mises en cause dans l'enquête sur l'ingérence russe pendant sa dernière campagne présidentielle. Je vois le mal partout, Stéphane Vernet. Ou ça s'appelle allumer un contre-feu ?
Non, mais c'est-à-dire qu'il utilise du droit de grâce pour gracier des gens qui pourraient, s'ils n'étaient pas graciés et exempts de poursuite, témoigner contre lui dans un certain nombre d'affaires qui peuvent l'attendre à la sortie de la Maison-Blanche. Donc, effectivement, il y a du calcul, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas le premier, en fait. Hein. Je vous rappelle que... dans les administrations précédentes, alors peut-être de manière moins systématique et spectaculaire, parce que là on parle de 75 grâces présidentielles prononcées aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres avant. Mais je vous rappelle que par exemple Bill Clinton avait gracié son demi-frère qui avait été condamné dans un trafic de drogue international.
Je me rappelais plus
si,
de ça.
Mais si. Enfin, il y a deux. Voilà, c'est la problématique du droit de grâce telle qu'elle existe aux États-Unis, c'est qu'elle est très peu encadrée en fait. Donc, c'est parfaitement légal. Et le président fait ce qu'il veut. Et celui-là, c'est un président qui aime bien faire ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut. Donc c'est open bar.
Et effectivement, la Constitution lui donne quasiment les pleins pouvoirs en la matière. Et il va certainement et en abuser jusqu'au bout. Il y a une personne qui va pas pouvoir gracier. C'est lui-même.
Mmh. Oui, alors le problème, et vous savez que lui, il réfléchit.
Il
émet l'hypothèse.
Oui,
c'est surréaliste.
Bien sûr.
Mais il émet l'hypothèse.
Mais on peut parier qu'il n'y arrivera pas. Et quand même, un des enjeux pour lui, c'était d'ailleurs l'enjeu de sa réélection, c'est les innombrables poursuites pénales qu'il y a contre lui sur des raisons politiques, d'enrichissement personnel, fiscal, enfin, ses relations diplomatiques parfois douteuses. La liste est extrêmement longue. Et figurez-vous que Donald Trump est déjà en campagne pour 2024. Il a déjà à ce jour récolté 240 millions de dollars pour sa prochaine campagne. Sauf que, vérification faite avant d'arriver, il a déjà employé 60 millions de dollars dans des affaires judiciaires pour certains de ses proches ou pour lui-même. Et le problème de Trump, c'est qu'il est embarqué dans une course-poursuite absolument infernale parce que son avenir au lendemain du 20 janvier, lorsqu'il aura quoi qu'il dise, il va quitter la Maison-Blanche le 20 janvier. Son avenir judiciaire s'annonce extrêmement, extrêmement compliqué. Et c'est vrai qu'encore une fois, il va multiplier les grâces parce qu'effectivement, il a besoin d'être protégé par certains témoins de ses frasques et de ses méfaits et de ses excès. Mais je pense qu'il n'échappera pas à certaines dangers. Et dernier Bernet. Point, je voudrais dire, quand même, qui est très important, le criminel là, qui a tué trois gendarmes oui. dans le Puy-de-Dôme, un survivaliste qui prône la fin du monde. Quand même, je ne peux pas manquer de dire d'où vient cette idéologie. Elle vient d'Amérique. Elle vient d'Amérique et qu'une partie, une frange de l'électorat de Trump, il est dans cette mouvance et cette idéologie survivaliste de fin du monde qui, elle nous vient d'Amérique et je constate, nous pouvons constater qu'avec horreur que cette influence d'Amérique vient jusqu'à chez nous.
On sait peu de choses sur ce drame du Puy-de-Dôme.
Oui, mais,
pour
non, mais la doctrine du survivalisme
éléments.
Qui a été bien expliquée par le procureur tout à l'heure, elle vient de là et c'est vraiment dramatique.
Stéphane Bernet. Juste un mot pour revenir à Trump. Trump aurait bien besoin de pouvoir se gracier lui-même. Il y réfléchit et à mon avis, il n'y arrivera pas. Donc pour lui, il faudrait que Joe Biden, le prochain président des États-Unis, puisse le gracier. Il va avoir un problème, Trump. C'est que à force d'accuser Joe Biden d'avoir triché et d'être élu en ayant triché, Biden ne pourra pas gracier Trump, si tant est qu'il en ait envie, ce qui n'est pas sûr du tout, mais il ne pourra pas le faire, parce que sinon ce serait interprété comme une espèce de renvoi à l'ascenseur, sur le mode « bon, j'ai triché pour gagner, tu dis rien, je te gracie », et donc il ne pourra pas le faire. Et donc,
à un moment, il était question qu'il démissionne pour que Mike Pence, son vice-président, puisse le gracier avant de quitter la Maison-Blanche.
J'ai lu ça comme vous, effectivement.
Tout est possible.
On arrive à des scénarios assez extraordinaires.
Il est prêt à tout. Moi, je remarque, dans ces grâces, il y en a quelques-unes qui touchent des gens qui sont liés à ce qu'on appelait l'enquête russe, hein, de savoir si est-ce que les Russes avaient interféré dans l'élection présidentielle précédente, et est-ce que Trump et l'équipe de Trump avaient participé, avaient accepté c'est un deal avec les Russes. Il y a des gens qui avaient été condamnés, des Américains, parce qu'ils avaient menti au Congrès ou au FBI sur cette question-là. Il les a graciés. Et en même temps, il y a une autre affaire qui était liée à la Russie il n'y a pas longtemps. Vous savez, il y a eu un grand phénomène de ce qu'on appelle de hacking, là,
destruction d'ordinateurs,
voilà, de piratage informatique sur de l'administration américaine, qui était très grave. Mike Pence lui-même a dit, le vice-président, hein, ce qui s'est passé est très grave. Et c'est une attaque qui vient de Russie. Et immédiatement, Trump a fait un tweet pour dire, mais non, c'est la presse qui accuse les Russes, on n'en sait rien, etc. Donc pourquoi Trump protège-t-il toujours Poutine? Ça, c'est un grand mystère.
Et l'autre personne, c'est Steve Bannon, qui risque d'être gracié bientôt. Et qui lui aussi
était dans la même affaire. C'était un point. Et deuxième point qui, moi, me sidère, parce que qu'un homme soit mentalement dérangé, c'est quand même le cas. Enfin, Trump, il a quand même basculé dans une autre réalité. Là, les fraudes, etc. Il n'y a aucune fraude. La Cour suprême nommée par lui dit qu'il n'y a pas de fraude, etc. Et lui continue à dire qu'il y en a. Pourquoi, donc, que lui soit mentalement dérangé, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce que tout un parti le suit dans les Républicains? Il y a des tas de gens qui sont des gens honorables. Pourquoi est-ce que ces gens honorables suivent quelqu'un qui est en train de détruire la démocratie américaine, c'est un mystère.
Antoine Boulet, je vous donne la parole juste après le fil info, puisqu'il est 20h50. Cyril Ardo.
À 8 jours de la date limite, l'accord commercial post-Brexit est sur le point d'aboutir. Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni entrent dans la phase finale. Parmi les derniers sujets discutés, l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques. Un profil inquiétant, c'est en ces termes que le procureur de la République de Clermont-Ferrand a décrit le tireur qui a tué trois gendarmes la nuit dernière dans le Puy-de-Dôme. Les militaires étaient en intervention pour des violences conjugales. L'assaillant était un survivaliste convaincu de la fin du monde. Son corps a été retrouvé ce matin. La piste du suicide est privilégiés. Il n'est pas question qu'on envoie des gens dans les hôpitaux. Déclaration sur France Info de Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du Rond-Point. Il ne croit pas à une réouverture des lieux culturels le 7 janvier, alors que le Conseil d'État a validé aujourd'hui la décision de fermer les théâtres, cinémas et musées pour essayer d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Plusieurs dizaines d'artistes et de professionnels avaient déposé un référé. À l'avant-veille de Noël, plus des deux tiers des Français seront moins de 6 à table. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa Dansu Consulting pour France Info et le Figaro. Il y aura en moyenne 5 personnes et demie pour le réveillon. En revanche, pour 10% des Français, il y aura plus de 10 personnes autour de la table.
France Info.
20h, 21h, les informés. Augustin arrivé.
Antoine Boulet, ingérence ou pas, en tout cas, il y a peut-être une connexion oui, entre Donald Trump et la Russie. Vous vouliez réagir par rapport à ça?
Non, c'était sur le terme de mentalement dérangé. Je comprends, évidemment, et je partage en partie, mais je pense
pour
aussi
vous, tout ça, c'est stratégie.
C'est une stratégie. C'est un joueur et c'est un bluffeur. Et le bluff, à un moment donné, va consister peut-être à se coucher. On n'aura pas vu son jeu, mais ses partisans pourront penser qu'il avait des preuves, qu'il avait raison, parce que le propre d'une théorie du complot, c'est d'être irréfutable aux yeux de ses partisans, comme toutes les rhétoriques conspirationnistes. Trump s'adapte à un nouveau scénario pour demeurer infaillible aux yeux de ses partisans. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est une étude récente de l'American Political Science Review de l'université de Yale qui révèle que seuls 3,5% des Américains, 3,5%, toutes appartenances politiques confondues, seraient prêts à changer leur vote dans l'hypothèse où un candidat, leur candidat, adopterait un comportement antidémocratique ou violent. C'est-à-dire qu'on est à un niveau d'exaspération, d'hystérisation du débat, et ça, c'est extrêmement, extrêmement préoccupant. De ce point de vue, on peut se réjouir qu'en Europe, et en France notamment, on n'en soit pas encore là, mais parce que le sentiment du peuple américain, c'est que le débat est tellement cadenassé, les Américains qui sont pour Trump ne sont pas forcément, n'achètent pas tout ce qu'ils disent, mais ils ont eu l'impression qu'ils secouaient, pardonnez-moi l'expression, qu'ils secouaient le cocotier.
Mais c'est quoi le nouveau scénario que écrit actuellement Donald Trump, Antoine Boulet, parce que il critique même maintenant sa garde rapprochée, même son vice-président Mike Pence en prend régulièrement pour son grade. Il ne va plus rester grand monde.
C'est là que je disais que j'étais en partie d'accord avec Stéphane Verlet sur le côté mentalement dérangé. Il y a une outrance et il y a une hubris et il y a une folie à certains égards. Mais, dans le même temps, cette question des fraudes, cette question du pardon, c'est-à-dire de la grâce présidentielle, pour moi, fait partie d'une stratégie qui vise à se rabattre sur un socle de votants, enfin d'électeurs très solides et qui de facto ne bouge pas. Il a raison de dire que c'est le deuxième, ce qui est drôle c'est que c'est le deuxième, mais le deuxième score le plus important jamais atteint par un président sortant aux élections présidentielles. Il faut voir ce niveau de haine, et je crois qu'on est débarrassé du Trumpisme, qu'on est débarrassé du populisme aux États-Unis est une erreur.
Il a mobilisé effectivement beaucoup, beaucoup plus que les sondeurs d'ailleurs ne s'y attendaient lors de l'élection de novembre. Pour revenir sur les grâces, on parlait de ces personnes qui avaient été mises en cause dans l'enquête du FBI. Il a aussi gracié 4 gardes de la société Blackwater. Alors, c'est une société qui avait participé à une fusillade à Bagdad. Il y avait eu des morts chez les Irakiens. Et les personnes qui avaient enquêté là-dessus à Bagdad disent aujourd'hui que cette grâce, ça confirme les violations des droits humains par les États-Unis. L'année a très mal commencé entre Irak et États-Unis avec un bombardement à Bagdad. Ça se termine à nouveau très mal. Pour ça, il est assez cohérent, Michel Taube.
Il est cohérent avec sa doctrine, c'est-à-dire que ses grâces ont un sens politique. Elles sont une manière pour lui de réaffirmer ses convictions les plus profondes et notamment cet esprit d'impunité américaine à laquelle il croit très très fort et qui lui permet de gracier des personnes qui sont impliquées dans la violation des droits humains en Irak, comme il est impliqué, ses grâces s'appliquent sur des affaires russes, parce que ses relations avec la Russie sont extrêmement complexes et certainement qu'elles exploseront à la face du monde dans les années qui viennent, lors des nombreux procès qu'il va avoir à subir. Donc, effectivement, ces grâces, elles sont politiquement un signe politique, elles sont un message politique de la part de Trump, et je pense qu'effectivement, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au 20 janvier, il va multiplier des décisions très très politique. Le son que vous avez passé tout à l'heure sur le retoquage du plan de relance ou de sauvetage plutôt l'économie, ça a aussi beaucoup de sens politique. Voilà, c'est un animal politique plan, et Donald Trump jusqu'à la dernière minute, rappelez-vous la décision de nommer à la Cour suprême une grande juriste ultra conservatrice. Voilà, jusqu'à la dernière minute, il va faire des coups d'éclat et il va prendre des mesures extrêmement audacieuses qui s'imprimeront pour longtemps
et
la vie politique américaine.
Et nous verrons s'il fait encore partie du décor en 2024, si, comme vous le pensez, il est déjà candidat pour
sa réélection. En tous les cas, il collecte beaucoup de fonds pour cela.
Toute cette période de congé de Noël, je vais vous demander à tous les invités, vous comme ceux de demain, comme ceux d'hier, de choisir un événement dans l'année 2020, cette année difficile, pleine d'obstacles et pleine de douleurs, un événement que vous sauveriez de l'année 2020. Michel Taube, vous étiez avec le micro, je vous le laisse. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi pour...
Écoutez, franchement, c'est un événement qui date d'il y a 3 jours. D'ailleurs, je l'ai entendu sur mon antenne déjà plusieurs reprises. C'est le dernier album de Paul McCartney. Voilà, c'est ça ce que je retiendrai de cette terrible année.
McCartney 3,
c'est extraordinaire, c'est une cure de jouvence. Ça permet à toute une jeunesse de découvrir ou de redécouvrir un des monuments, signé le monument de la musique contemporaine, enfin de, et du rock et de la pop. Voilà, l'année a été tellement dure et tragique, notamment pour des raisons personnelles, que je préfère rester sur cette note musicale.
Et on retrouve votre site d'information Opinion Internationale. Qu'est-ce qu'on trouve sur le site en ce moment ?
Ah ben, on parle un petit peu de Noël. Demain, on a un édito un peu léger sur Jésus-Christ Superstar et le message que Noël peut porter au-delà même des chrétiens et des croyants.
Stéphane Vernet, qu'est-ce que vous sauveriez, vous, de cette année 2020 ?
Alors, c'est une année particulière, hein. C'est l'année où on aura appris à se laver les mains. Donc, voilà. Et on a fait... bon.
Alors, pas assez, parce que, excusez-moi, monsieur Vernet, il y a des décennies, apprendre à se laver les mains, ça se faisait à l'école. C'était l'éducation à la santé. Et je prône notamment dans une grande politique de prévention qui n'a pas été mise en place, alors qu'Emmanuel Macron avait fait son cheval de bataille dans sa campagne électorale, de réapprendre l'hygiène et la santé à l'école.
Bon, Stéphane Vernet, donc on a appris à se laver les mains.
C'est l'année où on a appris à se laver les mains. C'est une année où il n'y a pas grand-chose à sauver, entre guillemets. Moi, ce que je retiendrai, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, c'est le rire de mes enfants. Parce que je trouve que c'est une année qui a été particulièrement difficile pour les petits, pour la jeunesse. C'est très angoissant pour nous tous, mais pour eux aussi. Et voilà. Et moi, je pense à eux, je pense à leur avenir. Et c'est ça que j'ai envie de garder.
Et ils rigolent quand même.
Oui, voilà. Et je pense qu'il faut rester, il faut essayer de rester résolument optimiste dans un univers qui est quand même plein d'incertitudes et assez flippant, si vous me permettez l'expression.
Est-ce qu'ils rigoleront en voyant la une de West France demain ?
Alors, la une de West France est traditionnellement consacrée aux fêtes de Noël, bien évidemment. Bon. Mais on a aussi tout un sujet sur le drame de Saint-Just et les trois gendarmes qui ont été tués
dans le Puy-de-Dôme. François Reinhardt, qu'est-ce que vous sauveriez de 2020 ?
Eh bien, je sauve le cœur de l'année 2020, c'est-à-dire de fait l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'il y a 1er janvier dernier, personne n'aurait pensé qu'on aurait vécu cette année-là. Alors, c'est peut-être vrai de toutes les années, mais enfin là, particulièrement, que penser... Le 1er janvier 2020, on n'aurait pas pu penser que 4 mois plus tard, prendre un café, ce serait une espèce de luxe inaccessible, prendre un café dans un bistrot. Donc voilà, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. C'est Louis Aragon.
Et par un système de vases communicants, nous aurons plein de surprises en 2021.
Et donc, positive. Ça ne peut pas être pire, donc ce sera mieux.
Qu'est-ce qu'on trouve dans l'Obs ?
Dans l'Obs, on fait un numéro de double de fin d'année sur ceux qui vont nous aider à déconfiner, donc les personnalités qui vont marquer l'année prochaine. Enfin, on espère. Et la une, c'est Kamala Harris, la vice-présidente elect, alors on dit la vice-présidente elect, voilà, américaine.
De Joe Biden. Antoine Boulet, qu'est-ce que vous sauvez de 2020 ?
Je sauve un événement qui a eu lieu le 4 octobre et qui est le moment où les digues qui protègent Venise se sont levées, c'est le projet Mosè, et qui a protégé Venise pour la première fois de l'Acqua Alta. Et je trouve que c'est un symbole magnifique de l'intelligence humaine, du génie humain, de la science, de la technologie, contre tous les survivalistes, tous les anti-vax, tous les dérangés mentalement, comme disait l'un de nos orateurs. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se défendre contre les ravages que nous avons parfois causés nous-mêmes à la nature. Mais je trouve que c'est un signe d'espoir très beau. Je ne sais pas si vous avez vu les images, je recherchais d'ailleurs en ligne, de voir ces digues de métal se lever et protéger ce joyau. Et bien, c'est un signe d'espoir malgré toutes les difficultés que nous vivons.
Antoine Boulet, président du cabinet de conseil en relations institutionnelles, l'Institut Bien Commun. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce numéro.
Je voulais juste te dire, j'ai entendu qu'au réveillon, on serait 5,5. Ça veut dire qu'on peut inviter sa moitié, c'est ça ?
Ça veut dire qu'avec des enfants, c'est possible, je crois. Merci beaucoup à tous les quatre.